chers auditeurs, et bienvenue dans cette matinale du... Heureusement, je suis avec Lily, qui va me dire quel jour on est, Lily.
Le 14 mai.
Voilà, 14 mai, il est 9... Non, il n'est pas 9h.
Il est 10h10.
Voilà, heureusement qu'elle est là. Alors, en plus, tout le monde se marre derrière la vitre. Hein. Alors, Léonie, bonjour Léonie. Lina, qui a commencé lundi, et que vous retrouvez, qui a déjà été... qui connaît déjà le studio, qui connaît déjà Radio FM+. Et puis, William, qui, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, il fait des choses. En tout cas, il fait des choses. Et donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Lily. Lily, on aime bien ces mercredis matins, toutes les deux.
On adore.
On adore. Et on va parler d'un sujet grave aujourd'hui, Lily. Il y a peu de temps, j'ai reçu un petit mot signé... J.F. Achard, me disant, Nathalie, il y a un sujet dont il faut parler, voilà, et donc on s'est rappelé, et puis nous voilà aujourd'hui, et donc on est en compagnie de Jean-François et de Marie-Sylvie Achard, et je vous dis bienvenue à tous les deux dans le studio.
Et merci, bonjour chers auditeurs.
Merci en tout cas d'être là. On va parler de deux choses, de l'association des enfants du Mékong, peut-être même de trois choses, de ce qui se passe en Birmanie et dont on parle peu, voire pas, et puis d'un événement qui va avoir lieu ce dimanche.
Ce dimanche,
voilà, avec un très beau concert. Donc peut-être pour commencer, nous parler de qu'est-ce comment est née cette association des enfants du Mékong, depuis quand et de quoi elle s'occupe?
Voilà, alors Enfants du Mékong a été créé par un Français à Vientiane, au Laos, en 1958, c'est-à-dire il y a 67 ans. C'est un ancien militaire qui avait été fait prisonnier au Vietnam et qui a réussi à s'échapper pour rejoindre le Laos. Et comme il aimait beaucoup ces pays, il est resté là-bas, il s'est installé comme dentiste. Et un jour, deux enfants de la rue viennent le trouver pour simplement lui demander de les faire travailler pour que ces enfants puissent vivre. Parce que les enfants des rues, eh bien, ils n'ont pas de local, ils n'ont pas à manger tous les jours. Et donc, ils s'adressent à René Péchard, notre fondateur, qui leur dit « Écoutez, non, moi je ne vous fais pas travailler, je vais vous envoyer à l'école. Mais on n'a pas d'argent, monsieur, on ne peut pas... Alors, je veux vous payer votre scolarité et je vous envoie dans un internat à Vientiane, au Laos.
C'est quoi comme, au niveau géographique, le Mékong? C'est quelle région?
Alors, le Mékong, c'est un fleuve d'Asie du Sud-Est.
Oui.
Et nous intervenons dans cinq pays qui sont soit bordés, soit traversés par le Mékong, et qui sont la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Plus les Philippines, qui sont des îles et qui ne sont pas évidemment traversées par le Mékong.
Et vous-même, tous les deux, donc, comment vous avez rencontré cette association?
Alors, il s'est trouvé qu'après le départ de nos trois enfants qui étaient installés dans la vie, qui avaient terminé leurs études et qui avaient une formation suffisante pour pouvoir trouver un travail, on s'est trouvé un petit peu démunis et on s'est dit pourquoi ne pas faire bénéficier d'autres enfants d'un soutien scolaire pour leur donner autant de chances qu'ont eu nos enfants ici en France.
En fait, c'est même une histoire familiale. C'est assez étonnant parce qu'on s'en est rendu compte plus tard. Donc ma sœur à Marseille nous invite à une randonnée au nord d'Aix-en-Provence sur la montagne Sainte-Victoire. Et donc on assiste à un film sur les enfants d'enfants du Mékong. Et bien sûr, on est tout de suite pris par la détresse de ces enfants. Et comme nos trois enfants étaient autonomes, on prend ces trois parrainages. Et plus tard, avec ma sœur, on redécouvre une lettre de maman qui avait correspondu, envoyé des fonds justement à un certain René Péchard, un dentiste.
Incroyable.
C'était vraiment étonnant.
Incroyable l'histoire, hein. C'est une boucle. Hein.
C'est comme
exactement.
Une boucle.
Donc on rappelle que la mission donc, des enfants du Mékong, c'est éduquer, former, accompagner les enfants. C'est, vous-même, vous aviez des métiers, je ne sais pas, vous étiez prof, il y a quelque chose qui vous a amené vers ça? Non? Tous les deux?
Oh ben, moi, en fac, par exemple, bon, j'ai fait l'informatique. En fac, j'avais rencontré en binôme, parce qu'on travaillait en binôme, un Cambodgien. Et puis quand il y a eu les Khmers rouges, moi je me dis, mais nous on se marie, on est heureux et tout. Et qu'est-il devenu ce Cambodgien ? On n'a jamais su. Mm-hmm. Bon, on a essayé de trouver parce qu'il faisait partie de l'école polytechnique de Grenoble. Donc ils ont normalement l'ensemble des étudiants. Mais bon, on n'a jamais su.
Je recommande d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a très peu de temps, je crois que c'est sur Arte ou sur la 5, il y a eu un très bel... Alors, je ne sais pas si c'est dans La Fabrique du mensonge, un reportage sur...
Sur le Tipan, oui. Le livre L'élimination.
Et c'est vraiment très, très...
Ah oui, puis moi, quand on voit les films de Riti Pan, on est vraiment, ça bouleversé.
Aujourd'hui, dans les chiffres que j'ai trouvés...
quelques chiffres voilà, pour merci vous Jean-François. Présenter. Donc, nous aidons actuellement 70 000 enfants chaque année. 25 000 enfants qui sont soutenus à travers des parrainages scolaires. Ces enfants-là restent dans leur famille. Simplement, le parrainage consiste à envoyer une somme d'argent à la famille pour permettre à l'enfant d'être scolarisé. Parce que la scolarisation demande quand même quelques fonds dont ne disposent pas les familles. On s'adresse souvent à des familles qui sont tellement pauvres qu'elles envoient leurs enfants travailler au lieu d'aller à l'école. Donc, 25 000 enfants dans les familles, plus 45 000 autres enfants qui sont accueillis dans des structures d'accueil collectives. Alors, ce sont des internats, ce sont des orphelinats ou des centres de réinsertion, parce qu'on s'occupe aussi d'enfants qui ont été violentés. Le tourisme sexuel, malheureusement, dans ces pays-là, est très commun. Et donc, on recueille des enfants pour leur permettre de se reconstruire. Donc, ils restent le temps qu'ils ont besoin. On a des psychologues à leur disposition et on leur apprend un métier, souvent un métier manuel. Alors, pour les filles, ça va être de la couture, par exemple, ou... pour leur préparer une formation dans le tourisme qui leur permettra après de travailler dans un hôtel ou dans un restaurant.
Jean-François, on sait très peu de choses sur, en définitive, où en est chaque pays au niveau asiatique. Faut pas oublier qu'après la guerre, la Corée du Sud était le 147e pays mondial et que, bon, ils ont fait des bons. Les cinq pays qu'on a cités, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, Philippines, Birmanie, je pense que chacun est différent. Après, avec Lily, vous allez parler de la Birmanie et de ce qui se passe en Birmanie. Mais je pense que les six... pays ne n'ont pas la même accès à la scolarité. Rien que dans le documentaire que j'ai vu, par exemple, qui explique bien ce qui s'est passé entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud avant qu'ils soient réunis. Je veux dire, quelle est la situation globale de justement de la formation et de l'éducation dans tous ces pays ?
Ben, ça dépend des pays, en fait. On pourrait dire qu'il y a des poches de pauvreté, par exemple, aux Philippines, qu'on semble... pas arriver à résoudre, hein, toutes ces bidonvilles. Et puis ces pays sont traversés sans arrêt par des typhons, sans arrêt, il y a quelque chose à faire. Hein. Alors le Vietnam paraît peut-être assez développé maintenant, les touristes qui y vont, mais en fait, on ne va jamais vraiment voir les ethnies minoritaires qui n'ont pas accès à la scolarité parce qu'ils ne parlent pas la langue officielle de l'école. Donc nous, effectivement, on a quand même... Moi, j'ai une filleule au Nord-Vietnam. Bon, notre rôle est très important encore dans ces pays-là. On a offert un parrainage à une autre petite fille qui, elle, a une autre petite vietnamienne dans une ethnie au centre du Vietnam.
Près de Hue.
Voilà, près de Hue. On voit que là aussi, alors notre petite fille nous demandait à 8 ans, quand on lui a offert le parrainage, « Mamie, qu'est-ce que ça veut dire, journalier ?» Donc on voit bien que c'est pas le plein emploi comme on pourrait l'espérer. Hein.
Comment vous les rencontrez d'ailleurs, ces enfants qui ont besoin de vous ? Il y a des équipes sur place.
Alors voilà, comment ça se passe sur le terrain ? Donc nous avons des responsables locaux qui ont essentiellement la mission de coordonner les parrainages. C'est-à-dire que leur rôle consiste à aller porter, visiter les familles des filleuls, porter l'argent du parrainage, porter les courriers quand il y en a, puisque un échange épistolaire est possible avec le filleul que l'on parraine. Et dans certains cas, nous apportons également une petite aide alimentaire sous forme de riz. On donne 17 kilos de riz par famille chaque mois pour compenser le fait que l'enfant ne va pas travailler. Mm-hmm. Sinon, les parents ne laisseraient pas partir leurs enfants à l'école s'il n'y avait pas cette petite compensation. Donc la deuxième mission de nos responsables locaux, ben, ce sont des responsables qui sont en poste dans des centres d'accueil collectifs, donc comme je disais, internat, orphelinat ou centre d'accueil pour enfants violentés.
Marie-Sylvie parlait des ethnies minoritaires. Il y a encore des ethnies qui sont en difficulté par rapport au gouvernement, par exemple.
Même au Vietnam.
Au Vietnam.
Alors, au Vietnam, par exemple, on n'a pas de volontaires bambou. Enfin, les volontaires bambou, on n'a peut-être pas encore parlé.
Vous pouvez nous dire ce que c'est. Oui.
Voilà.
Tu veux en parler ? Alors, les volontaires, l'association contrôle l'action de nos responsables locaux, qui sont des locaux sur place, mm-hmm. en envoyant des bénévoles qui partent avec le statut de VSI, volontaires de solidarité internationale. Et nous les appelons les volontaires bambous. Donc, eux ont trois missions. Soit ils sont coordinateurs de parrainage, ils contrôlent donc les responsables locaux, ils établissent les comptes, parce qu'un coordinateur de parrainage qui a un secteur géographique assez grand et qui va visiter entre 80 et 100 familles par mois, reçoit une somme annuelle relativement importante, de l'ordre de 25 000 euros. Donc nos bambous établissent les comptes et vérifient que l'argent va bien à toutes les familles. Voilà.
Ce sont que des bénévoles, les bambous ?
Alors, les bambous bénévoles. Et ils partent un an
minimum
pour l'association.
Vous l'avez vécu, ça, tous les deux, non ?
Alors, on est allé en immersion. On a passé 3 semaines en immersion dans 3 régions différentes en Thaïlande. On vous racontera un retour de cette expérience.
Peut-être que vous pouvez le raconter après, parce que je crois qu'après, avec Lily, on aimerait vous entendre sur ce qui se passe en Birmanie. Donc, peut-être cette rencontre en Thaïlande, c'est le moment de la raconter.
Alors Marie-Sylvie va nous parler d'une rencontre qui nous a marqué en Thaïlande.
En Thaïlande, donc, on a rencontré une jeune fille, donc on était avec la responsable bambou et les responsables du pays. Et on arrive dans la cour de l'abri où habitait cette famille. On voit arriver une jeune fille rayonnante avec un paquet de lettres. Et ce qui est étonnant, moi je regarde l'enveloppe, il y avait marqué 05, je ne sais plus quel numéro, et puis Sigoyé. Or je suis des Hautes-Alpes, je me dis c'est pas croyable. On va aller voir la famille à Sigoyé. Sigoyé c'est un tout petit village en dessous de la montagne de Séuse, et c'était deux boulangers qui, eux, de leur côté, nous ont montré un très gros album qu'ils venaient de faire parce que la jeune fille était en fin de scolarité. Un très gros album où il y avait toutes ses lettres, elle aussi. Donc vraiment, on voit que cet échange est si riche des deux côtés. Ces boulangers qui ne pouvaient pas aller faire voyager dans ces pays-là avaient des nouvelles. Et cette jeune fille qui recevait du courrier d'un endroit qu'elle ne verrait jamais, recevait aussi ce lien amical. Donc pour nous, ça a vraiment du sens, hein. Bon, ceux qui ne veulent pas faire de courrier épistolaire, bon, ils peuvent choisir de soutenir des centres. Mais il faut garder cette possibilité d'avoir du parrainage individuel.
Avant de passer la parole à Lily, j'ai une dernière question. Comment sont les États vis-à-vis de l'ONG? Est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous correspondez avec eux? Ou est-ce qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues?
Absolument pas, absolument pas. Et nous, on évite de travailler avec ces gouvernements parce qu'il y aurait trop de fonds qui seraient subtilisés par ces gouvernements. Donc, on ne travaille pas avec eux. Alors, ils nous acceptent, la plupart du temps, ils nous acceptent, sauf en Birmanie, avec la junte militaire, depuis le coup d'État dont on vous parlera tout à l'heure. Et au Vietnam, c'est la même chose. Donc, on travaille uniquement avec les responsables locaux. Et on remplace les missions des bambous qui ne vont pas là-bas par des missions depuis le centre à Nières, le siège social de notre association, qui envoie des personnes pour effectuer quand même ce contrôle que ne peuvent plus faire nos bambous, puisqu'ils sont interdits de pays.
Moi, je propose qu'avant d'échanger sur notamment la situation actuelle en Birmanie, on fasse peut-être une petite pause musicale.
Ah ben, je l'avais prévu après. Pourquoi? Parce que la pause musicale va nous parler de ce dont tu as parlé en fin d'émission, c'est-à-dire du concert qui va avoir lieu. Donc, c'est comme tu veux, Lily.
Je propose qu'on garde quand même la pause musicale maintenant.
Allez.
Pour après mieux parler de la Birmanie.
D'accord.
À tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio FM Plus 91. Si vous n'avez pas suivi, aujourd'hui on parle de Birmanie et des enfants du Mékong plus précisément. Et justement, en Birmanie, la situation actuelle, elle est un petit peu compliquée. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Alors, elle est compliquée parce que depuis le février 2021, après 10 ans d'ouverture, la junte militaire donc a arrêté la première ministre qui venait d'être réélue, Aung San Suu Kyi. Donc, la population est entrée en conflit et s'est opposée à la junte militaire. Donc, il s'est créé un mouvement d'opposition, le gouvernement qu'ils ont appelé le gouvernement d'unité nationale, et qui a décrété la désobéissance civile. Donc, plus de 350 groupes de défense du peuple ont été créés. Donc, il y a eu des affrontements. Il y en a eu à Rangoon, à Mandalay, et même dans la capitale. Donc, déjà, il y avait des affrontements avec les ethnies minoritaires. Alors, faut rappeler qu'en Birmanie, il y a plus d'une centaine d'ethnies minoritaires. Bon, on connaît les groupes majoritairement par leur nom. Bon, tout le monde a entendu parler des Rohingyas. Il y a également les Karen. Là, on en parle moins, mais ils sont en opposition avec le gouvernement, même depuis la mort du père d'Aung San Suu Kyi. Donc, les Karen, il y a les Shan, les Kachin, les Chin, enfin bon. Alors nous, effectivement, on intervient surtout avec les ethnies minoritaires qui ont une frontière par laquelle nous pouvons accéder facilement, c'est-à-dire le long de la Thaïlande, ce qui est le cas des Karen et des Shan, bon, et peut-être des Chin et Kachin, mais pas, on ne va pas du côté qui a la frontière vers l'Inde. Donc, bien, on a vu qu'il y a eu une recrudescence, donc des bombardements dans ces états ethniques. Alors, donc, maintenant, on ne peut plus envoyer de bénévoles en Birmanie. Donc, on a toujours 3200 enfants qui sont parrainés là-bas, répartis donc sur 140 programmes. Donc, on peut s'appuyer seulement sur le réseau de nos responsables locaux.
Et justement, Jean-François, quel problème avant le séisme, cette guerre en Birmanie révèle-t-il ?
Alors, depuis la fin du Covid, 50% des écoles publiques n'ont pas repris les cours. Pourquoi ? Parce que les professeurs se sont mis en désobéissance civile. Donc, ce qui a entraîné 7,5 millions de jeunes qui sont privés de scolarité. Alors, pour fuir les bombardements, Les enfants se réfugient dans la jungle, jusque dans des tranchées, pour éviter les bombes à fragmentation. Et nous soutenons actuellement, depuis 2 ans et demi, 28 000 enfants dans 120 écoles informelles, soit dans la jungle, soit dans des camps de déplacés internes. Et l'ONU estime à 1,5 million le nombre de Birmans qui ont fui leur pays et à 3,4 millions de déplacés internes, c'est-à-dire des gens qui restent malgré tout en Birmanie, mais qui fuient, dans, comme on vous disait tout à l'heure, dans la jungle pour éviter justement les bombardements de l'armée birmane. Alors, il faut savoir également que 35% de la population est en détresse alimentaire. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne mangent pas tous les jours.
Et quelle est la situation, Marie-Sylvie, après le séisme du 28 mars 2025 ?
Alors, l'épicémisme du séisme a été de magnitude 7,7 et l'épicentre, en fait, c'est Mandalay. Mandalay, c'est la deuxième ville du pays et qui est située à la frontière et à peu près à la limite, en fait, entre la partie qui est contrôlée par l'État majoritaire, par les Bamars, et les États qui sont contrôlés par les armées ethniques. Donc c'est pour ça que l'État central a interdit l'accès aux ONG ainsi qu'à la presse et que plus personne ne parle de ce problème du tremblement de terre.
Puis devant tous les malheurs dans le monde en ce moment, c'est vrai que...
Oui, voilà.
C'est affreux, mais c'est comme ça.
Voilà. Mm-hmm. Donc en fait, nous, on y travaille depuis 25 ans en Birmanie. Donc on a toujours notre réseau de responsables locaux qui sont fiables, qui sont sur place. Et on peut savoir que l'efficacité de notre action s'appuie sur ces communautés locales qui réagissent vite, de sa façon ciblée et sans être liées aux autorités nationales.
Mmh. En Birmanie, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si vous alliez dans des pays. Là, dans la crise birmane, vous y avez été tous les deux.
Non.
Vous
ne
pouvez pas y rentrer.
Non, on n'est pas allé en Birmanie. Non. On a eu, avant la crise, donc on avait un parrain qui était allé voir sa fille, qui était à Rangoon, je pense. Mais depuis, bon, plus personne n'y va. Par contre, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a 7 ans, on a été en immersion avec des volontaires bambous. Donc, en Thaïlande, on a rencontré Adeline, de Montpellier, qui était coordinatrice de parrainage. Donc c'est là aussi où j'ai rencontré la jeune fille tout à l'heure. Nous avons pu rencontrer sur son lieu de travail le filleul qui avait été parrainé par sa maman. Après, on est monté chez les Karen. Alors là aussi, c'est à la frontière nord-ouest du pays de la Thaïlande, donc avec la Birmanie. Et la volontaire bambou, là encore, c'est assez étonnant, c'était Anne, qui venait juste d'être diplômée de Polytech à Montpellier. Voilà.
Donc elle faisait... Il y a beaucoup de hasard quand même dans votre...
C'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait rencontré autant de gens impliqués dans Montpellier.
Hein, entre la première rencontre, l'échange dans les Alpes et là, ça fait beaucoup quand même.
Absolument.
Oui, c'est étonnant. Des fois, on se dit...
C'était un chemin pour vous, je crois, là.
C'est vraiment un chemin.
Les lettres de votre mère.
Et les lettres de votre mère.
Des fois, on est piloté. Hein. Bon. Voilà. Après, bon, donc, chez les Karen, on a vu que Anne, donc, qui était de Polytech à Montpellier, vivait vraiment en symbiose avec la population. Même elle préférait dormir chez l'habitant que dans le centre qui était réservé pour elle. Et elle nous a montré effectivement qu'elle avait visité 12 centres de réfugiés birmans chez les Karen. Donc ça, nous, on ne se doutait pas, 12 depuis très longtemps. Hein. Et enfin, au nord de la Mailande, on a aussi rencontré, donc là, on a toujours accompagné par Xavier qui venait du siège à Paris, 3 enseignantes de l'ethnie birmane Shan et qui venaient de passer la frontière pour solliciter une aide financière pour leur école. Donc on voit bien que cette frontière, somme toute, elle est assez poreuse puisque ce sont les responsables locaux qui viennent, qui savent que nous sommes là pour les aider.
Et tout à l'heure, la pause musicale que nous a proposée Lily On n'a pas dit ce que c'était. C'était la Messa di Gloria de Puccini. Et c'est pas pour rien qu'on a choisi cette pause musicale. Lily, peut-être que tu peux continuer d'animer et de parler de ce qui va se passer, puisque c'est pour ça aussi que vous êtes là.
Absolument. Il y aura un concert le 18 mai à 15h à l'église Sainte-Thérèse, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement quel était l'objectif de cet événement ?
Alors, ce concert exceptionnel avait été décidé avant le fait que la terre ait tremblé en Birmanie. Et on avait proposé ce concert pour permettre à Enfants du Mékong de continuer d'aider les écoles informelles dont on a parlé tout à l'heure. Donc, mais puisque le tremblement de terre est passé depuis, eh bien on va orienter les fonds vers ce projet qui a été mis en place par l'association, qui prévoit une aide d'urgence sanitaire d'une part, et puis une aide de post-urgence pour la reconstruction après la première phase d'aide sanitaire d'urgence. Donc, l'ensemble instrumental, les résonances et le chœur universitaire de Montpellier-Méditerranée offrent ce concert donc aux victimes du séisme en Birmanie. Au programme, la très belle messe de Messa di Gloria de Puccini, avec deux solistes, le ténor Sébastien Monti et le baryton Jean-Philippe Elouette, qui se joindront à eux pour cette occasion. Alors, les places peuvent être réservées sur la plateforme Eloasso au prix de 15€ ou de 10€ pour les étudiants et les enfants. Sur place, le prix sera de 18€. Donc,
et on peut en profiter, Jean-François, pour faire un petit don supplémentaire peut-être aux enfants du Mékong.
Absolument.
On peut ne pas s'en tenir à 15€ si on peut.
Évidemment.
Si,
voilà, c'est évidemment. Alors surtout pour les personnes qui ne seront pas disponibles ce jour-là, on a la possibilité de faire un don de deux façons différentes dont je vais vous parler. Donc le rendez-vous c'est dimanche 18 à 15h à l'église Sainte-Thérèse. On vous invite à venir très nombreux, accompagnés de vos amis pour cette noble cause qui est le secours prioritaire pour les ethnies minoritaires de Birmanie. Alors, pour ceux qui ne pourront pas venir et qui souhaitent faire un don, deux solutions. Soit par chèque, à l'ordre d'Enfants du Mékong-Urgence Birmane, ou... Et l'envoyer donc ce chèque et l'envoyer à Enfants du Mékong au 5 rue de la Comète 92600 à Asnières-sur-Seine. Ou deuxième solution, soit par internet directement sur le site www.enfantsdumekong.fr, enfants étant au pluriel.
Et justement, du coup, est-ce que sur ce site web on peut suivre un petit peu vos activités ?
Alors oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, ils ont fait un site pour notre concert et nous avons eu la joie de recevoir deux cousins, pas de Montpellier, mais de Montélier, qui est au nord de Valence. Des cousins que je n'avais pas vus depuis l'adolescence, mais ont continué à s'écrire tous les Noëls. Et ils sont allés sur le site Enfants du Mékong et ils ont vu ce concert et ils vont venir. Donc, depuis l'adolescence, je vais enfin revoir mes cousins.
Oui, c'est vraiment une grande histoire alors.
Ah, c'est incroyable.
Là, il y a un point dont vous vouliez parler, Jean-François, en début d'émission, qui semble vous tenir à cœur. C'est oui. Comment ça s'organise en France, alors, les Enfants du Mékong.
Voilà, la mission des responsables de la délégation de l'Hérault que nous sommes et du Gard. Donc il y a ces délégations, en général c'est un petit groupe qui se retrouve sous la responsabilité donc du responsable ou de la responsable, deux missions. La première c'est de faire connaître l'association pour trouver de nouveaux parrains. Il faut savoir que l'association a 450 enfants qui ont été choisis pour être parrainés, mais pour lesquels on n'a pas encore de parrain. Donc, on fait appel, et bien entendu, à la volonté et à la générosité de toutes les personnes qui veulent faire une action pour notre association, à travers donc différentes manifestations. Alors, nous avons aussi une deuxième mission, c'est de collecter des fonds pour ce que nous appelons des projets de développement. Alors, un projet de développement, ça peut aller d'une création de sanitaire dans une école mixte filles et garçons, une école primaire sans sanitaire. C'est le premier projet qu'on a développé et qu'on a financé à Montpellier, c'était au Laos. Vous vous rendez compte, 230 enfants, filles et garçons confondus, sans sanitaire, nous, ça nous crève le cœur, quoi. C'est pas possible. Donc, projet de développement, ça peut être ce genre d'opération. Ça peut être aussi la reconstruction complète d'une école. Pourquoi ? Parce que quand on a un certain nombre de filleuls qui ne peuvent pas aller à l'école parce que l'école a été fermée à cause de manifestations de désordre dans la structure de l'école, eh bien les enseignants, les responsables de ces établissements ferment l'école parce que ça menace ruine et donc ils ne peuvent pas prendre le risque d'avoir des morts sur la conscience. Et donc ces responsables d'école se tournent vers le gouvernement, mais le gouvernement leur dit « débrouillez-vous, il n'y a pas d'argent ». Donc, nos responsables locaux ont des appels pour justement reconstruire des écoles là-bas. Et alors là-bas, une école, c'est 4 classes. Hein. Donc, ça nous arrive de reconstruire 4 classes. Nous avons en France 72 délégations, c'est-à-dire 72 départements qui ont un responsable qui lance des actions pour faire connaître l'association, trouver de nouveaux parrains et également financer nos projets de développement. Alors, il faut savoir que l'association a reçu le prix des droits de l'homme en 1990 en France et que nous sommes labellisés IDEAS. La labellisation IDEAS certifie que l'association est bien gérée et surtout que les fonds qui ont été collectés vont bien ce pourquoi ils ont été collectés, c'est-à-dire essentiellement l'éducation des enfants en Asie du Sud-Est. Alors, il faut savoir également que quand Enfants du Mékong prend en charge un enfant, quel que soit son niveau scolaire, il l'accompagne jusqu'à l'emploi. C'est-à-dire que, avant de passer le bac, on organise des forums d'orientation qui permettent aux jeunes de choisir soit ceux qui ne veulent pas continuer ou qui ne peuvent pas continuer, de choisir un métier manuel. Et on les accompagne dans ces formations. Ou alors, ceux qui veulent continuer, qui sont brillants à l'école et qui ont plus d'ambition et qui souhaitent continuer des études supérieures, ces jeunes sont systématiquement obligés de quitter leur maison. Parce que, comme on travaille avec les ethnies minoritaires ou les endroits où les gouvernements ne s'occupent absolument pas des populations, ils doivent se rapprocher d'une grande ville pour avoir soit une formation supérieure dans des écoles ou à la faculté, ou pour alors avoir des formations comme médecin, par exemple. Et donc, ces jeunes sont obligés de s'expatrier de chez eux et on a créé des petits foyers qui accueillent ces jeunes. Alors la capacité d'accueil, c'est entre 25 et 30 jeunes. La première année, ils sont logés directement dans ces foyers et les années suivantes, ils sont deux chez l'habitant, mais ils sont rattachés à un foyer. Et ce foyer leur permet d'avoir un accueil familial qui est donné justement par la troisième mission des volontaires bambous. On accepte les couples qui partent pour minimum un an. Donc, en général, la femme s'occupe d'un foyer et reçoit donc ses étudiants. Et puis le mari est coordinateur de parrainage pour s'assurer que l'argent va bien donc aux parrains. Et ils ont aussi pour mission d'ouvrir de nouveaux parrainages après enquête qui est faite par nos responsables locaux.
Merci beaucoup à tous les deux. Et avant de nous quitter, est-ce que très rapidement, vous pouvez nous rappeler vos coordonnées ainsi que le site de votre association ?
Oui, bien sûr. Donc, Marie Sivy et Jean-François Achard, donc délégués EDM pour Enfants du Mékong, de l'Hérault et du Gard. Notre mail, délégation-8-34 info@enfantsdumekong.com. Notre téléphone 06 60 12 58 02. Et notre site internet, je vous le rappelle, www.enfantsdumekong.fr.
Merci beaucoup Nathalie.
Ben merci Lily, et puis on vous donne tous rendez-vous donc le 18 à 15h à l'église Saint-Thérèse, c'est le quartier où on était avant, hein, voilà, à côté du cinéma, et pour un très beau concert donc au profit des enfants du Mékong. Et comme disait Jean-François, si vous ne pouvez pas y aller, envoyez des sous quand même, on prend. Merci beaucoup et à demain pour une autre matinale. Merci Lily.
Merci chers auditeurs.
Merci beaucoup Marie-Sylvie et merci beaucoup Jean-François.
Merci à vous.